le data mining. Meaning ?
Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir jusqu'où ça peut aller et quel type de données. Ce n'est pas parce que l'État a ses prérogatives d'État qu'il peut ne pas suivre les directives sur les protections des données personnelles.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 459e numéro de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, vous le savez, ici, on prend un mot, un concept qui flotte dans l'air du temps et on le décortique avec un spécialiste, parfois recyclé, puisque vous verrez que notre invité est déjà celui qu'on avait reçu sur l'émission Deep Learning. Il faut dire qu'on va zoomer aujourd'hui sur une notion proche et qu'il est crucial de comprendre, car elle occupe une place de plus en plus centrale dans nos sociétés numérisées, le data mining. Aujourd'hui, tout ce que vous faites, et même tout ce que vous avez fait sur le net, est stocké quelque part. Et tous les indices sur votre personnalité que vous avez imprudemment laissé derrière vous, photos ridicules sur un tracteur ou avec un pull blanc oversize, imitation embarrassante, collaboration embarrassante.
Ici le lieutenant Charles Taylor.
Voire affirmation embarrassante.
Je me prends pas pour un chanteur. Je suis un chanteur.
Tous ces indices ressurgiront un jour grâce au data mining pour former un portrait de vous qui ne sera pas forcément flatteur. Alors, comment fonctionne le data mining ? Pourquoi est-ce un enjeu majeur pour les entreprises, mais aussi pour nous ? Suffit-il, comme le pense Cyril, de se mettre en mode navigation privée pour que personne ne sache jamais que vous êtes allé vous promener sur X-Hamster, qui plus est, pendant l'émission ? Zoom, zoom, zen, c'est parti !
France Inter.
C'est ça, sympa,
Zoom, zoom, zen.
Pendant le quiz.
Mathieu Noël.
Bonjour Victor Storchamp.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à nouveau. Donc dans Zoom Zoom Zen, vous êtes ingénieur en intelligence artificielle. Vous avez développé l'IA chez JP Morgan, BNP Paribas, Adobe et Mozilla. Autant dire que financièrement, vous n'aviez pas besoin d'écrire un bouquin, mais vous l'avez fait quand même. Vous l'avez fait quand même, c'est tout à votre honneur. Il est sorti en septembre, coécrit avec Vladimir Atlani, Anti-manuel d'intelligence artificielle, les nouvelles questions que pose l'IA. C'est aux éditions Erol. C'est carrément préfacé par Jean-Michel Blanquer en personne.
Ah,
avec vous, Victor, on va essayer de voir comment fonctionne le data mining, comment l'IA peut bousculer cette discipline. Juste le temps de vous présenter ceux dont l'historique de navigation est quasiment immaculée. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour les enfants.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde. C'est vrai qu'on est sages.
Ah, on va voir.
Presque ça.
À vos côtés, Victor.
Pas ça, mais...
Dommage qu'on fasse cette émission sur le data mining seulement aujourd'hui. Si elle avait su que chaque phrase qu'elle prononce à l'antenne était stockée sur un serveur et pourrait être un jour sortie de son contexte sans qu'on précise qu'il s'agissait d'une citation de quelqu'un d'autre, elle n'aurait jamais dit
« Tu nous manques Hitler ».
Ou encore
« J'ai toujours rêvé de baiser un Africain ».
Jamais, jamais, Victor, vous arrivez trop tard dans la saison.
Pas,
c'est
Mathieu.
Dommage, c'est dommage.
Vous
maintenant, c'est là.
Cool.
C'est dans le cloud.
Ouais, ouais, c'est ouais. Vrai.
Heureusement,
cloud,
Manon,
ouais.
On vous y reprendra plus. Et vous allez même aller plus loin sur notre sujet du jour.
Ouais, la deuxième, c'est record.
Avec la personne à suivre, comme tous les jours et aujourd'hui, le fondateur d'une entreprise qui aide justement ses utilisateurs à effacer toutes leurs données sur Internet.
Face à vous, Victor, il n'a aucune raison d'avoir peur du data mining, car il assume parfaitement d'avoir un jour porté un blouson Valentino Rossi comparé à une cagette de fruits par le journaliste mode Loïc Prigent, et qui, après avoir transité par la recyclerie, fait désormais le bonheur des maraîchers de Rungis. Quentin, chaque après-midi, vous testez notre mot du jour sur les passants.
Et moi, j'ai pris l'angle fiscal du data mining, ces robots qui vont fouiller des données pour voir s'il existe des erreurs volontaires ou involontaires sur une déclaration fiscale, sur une éligibilité à la CAF. Vos réactions dans la prochaine demi-heure pour ce micro-trotte complètement à la rue.
Tu t'es dit que c'était peut-être un outil intéressant pour toi, du coup.
Oui, puis ça peut me faire peur, finalement.
Ah oui, c'est ça. Vers 16h30, les amis, nous jouerons avec le data mining, mais afin que Manon et Quentin puissent quand même répondre à quelques questions, plutôt qu'un quiz sur les réseaux de neurones convolutifs, qui était ma première idée, ouais. On fera plutôt un test rigolo autour de ChatGPT. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Harold Barbet, mais d'abord, Victor Storchamp, est-ce que toute notre vie est vraiment désormais archivé quelque part via les données numériques qu'on laisse sur le net?
Alors, il y a une partie des données qui sont publiques, accessibles et qui sont sur des sites qui sont indexés par des moteurs de recherche, donc qui sont accessibles assez simplement. Et puis toute une autre partie de données, par exemple toutes les données industrielles issues de nos devices à la maison qui, elles, sont dans des serveurs privés d'entreprises qui ne sont pas accessibles par tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et toutes les traces qu'on a sur Internet, toute cette information va être ce qu'on appelle scrappée, notamment pour constituer les énormes jeux de données qui vont être ensuite donnés à des systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir apprendre et être entraîné par-dessus.
On va entrer dans le détail.
Scrappée ?
Scraper, oui, pardon, mais c'est un terme qui dit...
Oui, alors, comment scraper et crawler, c'est-à-dire aller visiter, c'est des robots qui vont visiter plein de sites internet pour récupérer les pages, les données, les liens, et constituer ces...
Et les copies, quoi.
Exactement.
Mais pas des robots comme R2D2, c'est plutôt des logiciels.
Non,
c'est du software, c'est du code.
On est dans le software, c'est important de le préciser, vous savez.
R2D2,
bien sûr. Mais quoi, Star Wars?
Oui, c'est pas le problème.
Non, mais il est très mignon, mais il n'existe pas, manière.
Il est très vieux, quoi.
Il n'existe pas.
Il y a des robots Tesla, maintenant.
Mon univers s'effondre. Déchargé cette saison de ses autres fonctions audio et télévisuelles qu'il occupait l'année dernière, on aurait pu croire que Cyril Lacaire redoublerait de zèle dans la préparation de son doux assort.
Ouais.
On va voir que... Je laisse ça à votre libre appréciation. Certains parlent de coup de génie, d'autres d'entourloupe. Bonjour Cyril.
J'ai rien dit là. Ouais. J'ai rien dit sur celui-là.
Racontez-nous le data mining, d'où ça sort.
Le data mining, qu'on appelle aussi l'exploration de données, un terme souvent lié au deep learning. Qu'est-ce que le deep learning? Eh bien, écoutez, puisque vous insistez, voici quelques éléments de réponse.
Oh oui, dites-nous, dites-nous.
C'est dans les années 40 que cet apprentissage en profondeur est apparu. C'est à cette époque qu'on théorise l'idée d'un neurone artificiel qui est, attention, une abstraction mathématique très simplifiée d'un neurone du cerveau humain. Quant à savoir ce qu'est une abstraction mathématique très simplifiée d'un neurone du cerveau humain, comment vous dire? Puisque nous avons invité un directeur scientifique, vous lui poserez la question au bon Noël.
Je ne manquerai pas.
Toujours est-il que c'est à partir de ces neurones artificiels que tout va se jouer. Neurones artificiels qui deviendront réseaux de neurones, puis réseaux de neurones convolutifs et réseaux de neurones profonds. Voilà. Et c'est à partir de là, en 2012, qu'apparaissent les algorithmes à base de deep learning, apprentissage profond, qui a inondé nos vies, le plus souvent sans qu'on s'en rende compte.
Et on arrive au data mining.
Au frais. Eh bien oui, puisque le data mining, c'est une immense collecte automatique de données, données qui vont nous permettre de découvrir des tendances et des modèles. Le data mining, ça sert à décrire, à estimer, à prévoir, à classer, à associer. C'est donc sans surprise qu'un des pères du data mining soit souvent cité Alan Turing, le mathématicien britannique à l'origine de la célèbre machine qui a permis de déchiffrer les messages cryptés allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est à lui qu'on doit donc cette idée d'une machine capable d'innombrables calculs, capable d'amasser des données. Mais si le travail de Turing remonte aux années 30, c'est dans les années 80 en fait qu'on a commencé à mettre un nom sur tout ça, le data mining. Alors, à quoi ça sert ce data mining quand il n'y a pas de nazis à combattre? Est-ce que cette pratique a été dévoyée contre les populations? Comment s'en prémunir? Et surtout, Victor Storchamp, avez-vous un sentiment de déjà-vu, ou plutôt de déjà-entendu? Car comme vous étiez déjà notre invité pour l'émission sur le deep learning, il n'est pas impossible que toute ressemblance avec un doux assort de la saison 2 ne soit pas totalement fortuite.
C'était merci la saison 1.
Et bien joué, Cyril. Ah oui, oui, ça remonte.
Pas, hein.
Ça
s'entend un peu. Bon.
Ouais. Il n'y avait pas de chat GPT.
Tout bien écrit. Mais du coup, ça nous fait un doux assort qui faisait 17 minutes, hein, finalement. En mettant bout à bout des doux assorts comme ça, on arrive à faire
des très belles choses.
Exactement. J'en ai entendu parler vaguement. Victor Storchamp. Comme Cyril nous l'a expliqué, ou plutôt réexpliqué, les données numériques sont partout et elles peuvent être utilisées dans la plupart des domaines. Quelques questions, peut-être très terre à terre pour commencer. Elles sont stockées où, ces données?
Alors, les données, elles sont stockées sur des serveurs. Et des serveurs qui sont principalement, en fait, quand on regarde à l'échelle mondiale, aux États-Unis et en Europe, c'est plus de 60% des serveurs qui sont déployés dans ces régions, qui représentent que 17% de la population.
Quand on stocke des photos dans le cloud? C'est dans ces serveurs aussi, c'est la même chose.
Exactement. Alors, le cloud, c'est principalement la grande part de marché du cloud sont les clouders américains, donc les Amazon, Google, Microsoft Azure, etc. Et eux détiennent en propre, en physique, des data centers qui sont répartis dans ces différentes régions.
Et alors, comment tout ça est monétisé? Toutes ces informations, quelque part, on a consenti en signant, en cochant OK, quelque part, on n'a pas lu le contrat, on a consenti à une fuite des données personnelles. Ces données, elles se retrouvent quelque part sur une sorte de marché des données, ça existe, ça?
Tout à fait. Alors, tout ça est très encadré par autorités administratives, la loi et différents règlements, à la fois sur les données personnelles et puis sur les données industrielles. Et on a des marketplaces, donc des courtiers et des places où on échange les données entre les fournisseurs et puis les acheteurs.
Mais ben ces data centers, ils sont où? Il y en a principalement aux États-Unis, mais il y en a en fait dans chaque pays?
Oui, absolument, il y en a dans chaque pays. Et donc, à chaque fois, on a des juridictions différentes et des lois différentes. Ouais. Et donc, on doit s'adapter. Alors, ils sont principalement dans des climats qui sont tempérés, parce qu'en fait, ça génère énormément de chaleur.
Ouais.
Et donc, on doit pouvoir... rafraîchir tout ça. Et donc, les consommations d'eau avec l'essor de l'intelligence artificielle ont explosé. On a des projections, je crois, pour 2027, où on aura la consommation globale de l'IA en eau qui sera à peu près équivalente à la moitié de ce que consomme la Grande-Bretagne et à peu près tout ce que consomme la Nouvelle-Zélande.
Mais ces lieux, ils sont très protégés ?
Ces lieux, ils sont relativement protégés.
Mais est-ce qu'ils pourraient devenir des cibles ? Forcément. Si il y a une atteinte à la liberté et qu'on veut, je sais pas, supprimer des données sur le cloud, on peut les détruire, ces data centers, j'imagine.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu un peu de prospective sur la façon dont, si une intelligence artificielle commençait à devenir hors de contrôle, on devrait justement bombarder des data centers. C'est très prospective et un peu décerné à Terminator, mais des gens réfléchissent à ce genre de situation.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il est au cœur de nos vies et pourtant, on ne le voit pas. Zoom cet après-midi sur le data mining. Toutes ces données numériques collectées et qui servent normalement à nous faciliter la vie, mais pas que. On en parle avec Victor Storchamp, ingénieur en intelligence artificielle. Victor, en préparant cette émission, j'ai appris que le fisc utilisait ces datas en lien avec l'intelligence artificielle pour traquer les mauvais payeurs. Alors, non pas que ça me concerne, évidemment, mais comment ça fonctionne, ça ?
Alors oui, depuis 2013, je crois, la DGFiP utilise différentes données qu'elle a à sa disposition, peut croiser les données pour faire du profilage et pouvoir cibler mieux les contrôles. Et depuis 2022, et même quelques, enfin depuis 2020-2022, on voit justement que le taux de recouvrement a vraiment augmenté. Donc c'est difficile toujours d'évaluer très précisément la causalité, est-ce que c'est dû vraiment à ces systèmes ? Mais en tout cas, il y a une corrélation.
Et c'est vrai qu'ils vont chercher même sur nos profils Instagram pour voir si on n'est pas sur un yacht l'été ou tout ça, pour essayer de voir qui éventuellement frauderait le fisc ?
Oui, effectivement. Alors ça, c'est une évolution de la loi qui maintenant permet à la DGFiP de pouvoir utiliser les données, je crois, juste les données qui sont publiques.
Vous n'avez pas l'air très à l'aise, Mathieu.
Oui, c'est clair. Mais
je suis extrêmement à l'aise. Vous me voyez souvent sur des yachts, sur mon profil Instagram.
Bon, faudrait aller regarder. Mais par contre, j'ai vu que l'État utilise aussi un outil développé par Capgemini, donc entreprise française, et Google, entreprise américaine, pour traquer les piscines privées non déclarées. Ah, ça peut conserver Mathieu Noël. Est-ce que ce n'est pas une violation de la vie privée ? Est-ce que là, on ne va pas un peu trop loin ?
Alors, encore une fois, je pense vraiment le sujet en France, c'est pas tant Big Brother que le déclassement technologique, en particulier dans l'administration. Tout ça, encore une fois, il faut rappeler, c'est vraiment extrêmement encadré. On a l'autorité, la garantie juridictionnelle du Conseil d'État qui a un droit de regard. On a l'autorité administrative, la CNIL, et on a le législateur et... Tout ça, c'est quand même des bons garde-fous.
Vous dites que c'est encadré, ok, mais je suppose qu'il y a des erreurs. Je ne sais pas, c'est pas parce que c'est de l'intelligence artificielle qu'il faut faire confiance, forcément.
Non, bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a des procédés de remédiation et on peut faire, l'utilisateur, le consommateur, le citoyen a des recours pour pouvoir contester des décisions. Je crois qu'à la fois dans le RGPD et l'IA Act, il est mentionné que sur certains cas d'usage critiques, on doit avoir un humain dans la boucle et des processus de remédiation qui doivent être présents.
Victor, vous avez travaillé avec des entreprises internationales. Est-ce qu'en France, on est en retard sur la technologie ? Est-ce que, vous parliez tout à l'heure de déclassement dans l'administration française, on n'est pas au top de ce que peut faire l'intelligence artificielle, de ce que sait faire l'intelligence artificielle aujourd'hui dans son utilisation ?
Alors, on a... des atouts. On a quelques entreprises qui développent des modèles qui sont à l'état de l'art mondial, mais c'est vrai que la France et l'Europe, quand on regarde à la fois d'un point de vue technologique, d'un point de vue des investissements, et le rapport Draghi l'illustre extrêmement bien et objective ça, on est en retard par rapport aux États-Unis et la Chine, dans le sens qu'on n'a pas encore ces hyperscalers qui sont capables...
Qu'est-ce que c'est un hyperscaler ?
C'est des entreprises qui sont très... intégrés, donc encore une fois, globalement les GAFA, et qui sont capables d'investir des montants pour pouvoir développer des systèmes qui actuellement coûtent en entraînement pour les plus gros des centaines de millions, voire plusieurs milliards de dollars. Et donc il y a besoin d'avoir ce type de ressources si on veut pouvoir développer nous-mêmes nos systèmes, et c'est un enjeu bien sûr de souveraineté.
Et c'est un problème, donc du coup c'est pas un investissement public, les GAFA c'est évidemment privé, il nous manque un champion comme ça. En Europe, l'Europe elle-même ne peut pas investir toute seule des sommes pareilles pour développer l'IA.
Non, c'est forcément une combinaison d'investissements privés et publics. Sur l'investissement privé, je crois que le rapport d'Anne Bouvreau et de Philippe Aguillon, qui a été remis à Matignon il y a quelques mois, montrait que sur l'investissement donc en venture capital, donc l'investissement privé qui finance l'économie l'innovation de rupture, on est trois fois moins en investissement que ce qu'on devrait être. Et donc, pareil, au niveau européen, c'est le marché de capitaux, donc le financement privé. La banque finance très mal l'innovation de rupture.
Alors qu'aux États-Unis, la banque finance beaucoup l'innovation de rupture ?
Alors qu'aux États-Unis, on a un tissu d'investissement privé, à la fois en fonds de private equity et en fonds de venture, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus ancien aussi, et beaucoup plus mature.
Qu'est-ce que vous foutez encore là ?
Mais je pense qu'on a besoin...
On a besoin de vous, oui, mais vous, c'est gentil de rester. Mais pourquoi vous restez ?
Je suis un peu sur les deux, continents.
Ah, il est sur les deux tableaux ! Malin, le Victor ! Que restera-t-il de Quentin Luy dans 50 ans, selon le data mining ?
Quentin Luy, entrepreneur français du début du 21e siècle, inventeur de la tasse musicale Lou Cigalou, est décédé le 8 mars 2047 en s'étouffant avec une fraise Tagada.
Pardon, Quentin, je ne voulais pas vous donner des infos si précises.
Un peu comme François, je crois que c'est début mars.
Ça vous laisse un peu de temps pour vous amuser et nous régaler.
Merci.
Faites attention aux bonbons. En attendant, la vie continue. Vous avez interrogé les gens sur cette notion de data mining.
Et particulièrement sur la partie fiscale de notre sujet. Ça m'intéresse, voilà, c'est comme ça. Ma première rencontre, c'est ce jeune homme. Casquette à l'envers, à moitié chill, à moitié start-upper. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Bien sûr, je m'appelle Sacha.
Sacha, vous avez quel âge ?
J'ai 21 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis étudiant en finance.
Petite mallette dans la main ?
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des dossiers ?
Quelques feuilles, un ordinateur, de quoi survivre une matinée.
Il découvre notre mot du jour.
Le data mining. Meaning ? Et qu'est-ce que j'en repense ?
Qu'est-ce que c'est ? Attends, on va demander à ChatGPT. Peux-tu me définir en français le data mining ? S'il te plaît.
C'est important, même avec l'IA, toujours de la politesse.
Moi, je suis très poli.
C'est très important.
Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il me dit ?
Le data mining, ou exploration des données en français, désigne le processus d'extraction, d'analyse et d'interprétation des données volumineuses pour découvrir les motifs.
Voilà, j'explique au jeune Sacha comment l'État fouille nos données personnelles, nous piste sur Google Maps, trace nos erreurs volontaires ou involontaires dans notre déclaration fiscale.
Bah honnêtement, qu'est-ce que ça dit de nous ? Bah la technologie qui augmente, ça va améliorer tout un panel de secteurs dans toutes nos vies. L'IA, ChatGPT, rien que là, on cherchait une définition, on a checké sur ChatGPT. L'augmentation et l'amélioration des technologies, bah, ça va accompagner notre vie. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis pas vraiment capable de le dire. Forcément, l'État va s'en servir pour défendre ses intérêts. Maintenant, il faudra aussi s'en servir pour défendre les nôtres, simplement, et savoir se démarquer, sortir son épingle du jeu pour simplement l'optimiser.
Ah, j'aime bien, moi, ce raisonnement. Finalement, à nous aussi de nous emparer de ces outils pour ne pas nous laisser faire. Lui marche les mains dans les poches, d'une doudoune blanche, les cheveux blancs plaqués en arrière. Bonjour, bonjour.
Je mets mes lunettes.
J'ai écrit en gros, hein. Vous allez voir, ça va le faire.
Bon.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
Oui, Alex.
Vous avez quel âge, Alex ?
78. Le data mining.
Eh ben, avec l'accent data mining.
Mining, ok.
Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non, mais ça doit être quelque chose qui a un rapport avec l'Internet.
Avec l'Internet, tout à fait, Alex. Le web, le 2.0. Et ces robots qui vont fouiller nos données pour déceler nos petits arrangements avec la réalité.
Et il y a beaucoup de gens qui trichent. J'en connais personnellement beaucoup. Des gens qui trichent, qui déclarent pas, qui touchent le RSA alors qu'ils sont plus, ils vivent à l'étranger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Ils viennent à la fin de l'année, à l'été, passer un mois à Paris, et ils vivent avec les 550 balles ou les 600 balles, et ils s'amusent avec notre pognon, et après, ils repartent à New York, à Bangkok, ou à... C'est pas normal, c'est une tricherie. Moi, je fais pas ça. Je suis pas blanc, mais pas à ce point-là.
Les fameuses personnes qui touchent le RSA et qui font la fête à New York, avec un RSA, on paye quoi ? Allez, 2 heures de Airbnb, on est tranquille. Elle marche vite, les cheveux longs tombent sur ses épaules et son manteau bleu marine. Je fais un bout de chemin avec elle.
Bonjour.
Vous avez l'air sympa, c'est pour ça. Comment vous appelez ?
Julie.
Vous avez quel âge ?
46 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Avocat.
Ah, que pense l'avocate de cet État qui fouille nos données ? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ?
Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir jusqu'où ça peut aller et quel type de données sont analysées, puisque normalement, il y a une loi européenne qui protège les données personnelles et de vérifier que ce n'est pas parce que l'État a ses prérogatives d'État qu'il peut ne pas suivre les directives sur les protections des données personnelles. Où est-ce qu'on met le curseur ? Ah bah bien sûr, ça c'est toute la question. Mais vous avez une différence entre les données que vous transmettez à l'État, c'est-à-dire vous, vos données, quand vous les transmettez au fisc, c'est assez normal que le fisc va les analyser. Quelle est la limite et jusqu'où ils peuvent aller pour faire les recherches ? La question, elle est vraiment là.
Merci maître pour vos conseils. Aurons-nous des armes juridiques à notre disposition en cas d'abus ? On ne sera sans doute pas tous à armes égales, en tout cas Anne et AESH, auxiliaire de vie scolaire pour un enfant autiste. Pour elle, c'est le doigt dans l'engrenage, on perd confiance dans la société et il faut se méfier de tout.
Ah bah, il faut toujours se méfier, il n'y a que les paranos qui survivent, je crois. Et ça dit, que, ça dit de ces gens que, voilà, ils veulent tout le temps emmerder... le voisin, emmerder celui qui galère plutôt que d'aller punir les gens qui devraient vraiment être en taule et qui abusent et qui ont énormément de pouvoir et donc ça leur donne tous les droits. Les gens, le petit peuple, finalement ne décide de rien, donc ils vont se faire emmerder jusqu'à l'os, quoi. Enfin jusqu'à la mort même. On va leur demander des choses quand ils seront morts, est-ce qu'ils ont payé leurs dettes, combien ça a coûté la pierre tombale, ce genre de choses.
Ils vous interpellent ces nouveaux outils et ces robots qui vont fouiller dans nos vies. À nous de nous emparer de ces outils pour nous défendre et ne jamais oublier de regarder ce que dit la loi dans mon cas. Et si le fisc me rattrape, je rappellerai mon droit, le droit à l'erreur. Pensez-y.
Oh là là.
Il finira bien par vous rattraper un jour, Quentin. Ah, depuis le temps qu'on envoie des indices dans votre direction.
Le droit à l'erreur.
On va vous dénoncer.
Sur le droit à l'erreur.
C'est déjà fait.
Victor Storchan, j'appelle votre livre, coécrit avec Vladimir Atlani, Anti-manuel d'intelligence artificielle, les nouvelles questions que pose l'IA. Il y en a plein des questions. J'ai envie de vous en poser une très concrète, puisque Quentin était sur la partie financière. Est-ce que vous avez travaillé pour BNP Paribas? Est-ce que quand une banque, notre banquier, sait maintenant chaque dépense qu'on fait, si on a fait du shopping, si on a plutôt. Si c'est un prêt immobilier, elle sait tout ça. Toutes ces données, elles restent tranquillement dans la banque ou la banque elle-même, après, elle les revend pour donner, je ne sais pas, elle revend les données de ses clients comme ça. C'est possible ça ou c'est interdit ?
Non, alors les banques, elles sont extrêmement régulées, c'est des institutions de crédit, donc elles ne peuvent pas revendre les données. Au contraire, elles sont vraiment extrêmement précautionneuses avec toutes nos données. Mais dans ces fameuses marketplaces où s'échangent et se revendent les données, c'est principalement, par exemple, les développeurs d'applications, votre application de fitness, votre application météo ou de mobilité,
météo
qui peut revendre les données.
Qu'est-ce qu'elle stocke comme données, mon application météo ? Ah oui, les lieux que j'ai fréquentés.
Tous les lieux, les clics, les habitudes.
Pour ne citer qu'elle, bon. Mais si je comprends bien, ces endroits, pardon, j'ai oublié le nom, où les courtiers s'échangent, les marketplaces, voilà, c'est légal ou pas ?
Complètement.
Ah, c'est
complètement,
totalement légal.
C'est complètement légal, c'est très encadré, mais à chaque fois, par exemple, qu'on utilise une application, on signe un consentement que nos données peuvent être utilisées et revendues.
Donc là, par exemple, nos données sur les réseaux sociaux peuvent être aussi revendues dans ces marketplaces ?
Alors, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi extrêmement régulé. Ils doivent avoir certaines contraintes. On a eu le scandale de Cambridge Analytica, qui avait donc utilisé plus de 50 millions de profils Facebook pour pouvoir faire de l'influence politique. Et donc, les choses sont quand même beaucoup plus encadrées maintenant.
Quentin. Moi, j'ai bien aimé la réaction de ce jeune Sacha. À nous aussi de nous emparer de l'IA pour se défendre. Il a raison de dire ça. Rédiger des courriers, faciliter l'administratif, défendre sa situation. Il faut s'emparer de l'IA aussi de notre côté.
Bien évidemment. Et maintenant, de plus en plus, on va voir une série d'agents qui vont pouvoir nous permettre d'être beaucoup plus productifs dans les tâches de quotidien. Donc, effectivement, au travail, mais aussi nous, en tant que citoyens, pour pouvoir mieux comprendre et s'approprier la loi et nos recours. Et donc, ça marche exactement dans les deux sens, à la fois comme un système d'attaque, mais aussi de défense pour les droits et les libertés.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
L'heure du Zoom Zoom Test, les amis. Et pour ce quiz, j'ai d'abord songé à utiliser les ressources infinies de l'intelligence artificielle pour anticiper l'avenir de mes camarades. Mais chou blanc, comme on dit.
Je ne dispose d'aucune information spécifique sur Cyril Lacarrière. Je n'ai pas d'information spécifique sur Manon Mariani.
Sans oublier le cruel.
Je ne sais pas qui est Quentin.
Bon bah super, ChatGPT. Merci du coup de main. On va donc faire différemment. Je vous propose un quiz sur les pires réponses ou les pires utilisations de cet outil perfectible, on l'aura compris, qu'est ChatGPT. Top ! Direction Paris, ça fait maintenant 2 heures que Quentin arpente en vain les trottoirs du 16e arrondissement à la recherche de passants pour son complètement à la rue sur la désistance, un concept que les gens ont autant envie de commenter que de se pendre avec un boyau de bœuf dans l'arrière-salle d'un abattoir bigard. Un échec d'autant plus douloureux que du côté de son autre passion, l'entrepreneuriat, c'est pas la joie non plus, car les ventes de son dernier concept, la brosse à dents qui fait aussi couteau à pain, peinent à décoller. Mais il existe une solution, Quentin, déjà adoptée par l'entreprise CS India. Laquelle ? Demandez à ChatGPT de rédiger le plan de com pour votre nouveau produit ? Demandez à ChatGPT de bidonner un business plan pour la banque ? Ou demandez à ChatGPT de vous remplacer, vous, au poste de PDG de votre entreprise ?
C. B. B et C. On peut faire les deux.
Vous décidez de dire n'importe quoi.
On peut faire les deux, non ?
Et vous, carrément, vous allez demander à ChatGPT de prendre votre place.
Bah oui, c'est le futur, les IA qui prennent la place.
C'est le futur, c'est une bonne réponse de Manon Mariani.
On peut pas faire un business plan pour la banque ?
Je sais, Quentin, la Lui Incorporated, taisez-vous. Sinon, vous prenez d'emblée un point de pénalité.
Il n'y a plus de respect.
C'est la fin de saison, il n'y a plus de respect.
Fin de saison.
Je sais, Quentin, fin d'année. La Lui Incorporated doit être dirigée par un lui. C'est votre bébé, cette holding. Mais non, il faut vivre avec votre temps. Manon vous l'a dit. Si vous êtes un foutu d'avoir des bons résultats, ayez au moins la lucidité de passer la main à l'intelligence artificielle.
Excusez-vous, sinon je ne joue plus.
C'est-à-dire ?
Excusez-vous, alors.
On s'en fout, il y a Victor. Alors, vous ne jouez plus, c'est Victor qui joue. C'est ce qu'ont fait les dirigeants de CS India, une boîte d'aide aux jeunes entrepreneurs qui, s'estimant visiblement pas à la hauteur, ont décidé de nommer ChatGPT au poste de PDG afin d'analyser les tendances du marché, identifier les opportunités. Ma foi, ils en sont très contents. Pensez-y, Quentin. Mais attention, top ! Que pense d'après vous ChatGPT de ChatGPT ? Enfin, je sais pas, je lui ai pas demandé. En revanche, nos confrères journalistes du site Les Numériques, qui ont visiblement le même dealer que mon auteur Gérald Darnaud, ont eu l'idée de demander au chatbot de Bing, un concurrent de ChatGPT, à quel personnage du Seigneur des Anneaux ChatGPT lui faisait penser. D'après vous, Bing a comparé son rival ChatGPT à Gollum, Saruman ou Bilbo le Hobbit ?
B, je pense. Saruman, comme vous, non ? Bon, Quentin ne joue plus, manifestement.
Moi. Victor.
Ah, je dirais B aussi.
Non, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Eh oui, évidemment. Évidemment, Saruman, que décidément les intelligences artificielles ou pas aiment comparer à beaucoup de monde. La réponse de Bing fut la suivante. Je dirais qu'il serait peut-être Saruman, le magicien corrompu. Comme lui, il est très intelligent et maîtrise la technologie. Comme lui, il est ambitieux et veut dominer les autres. Comme lui, il est manipulateur et peut tromper les gens avec ses paroles. Conclusion, Bing ne porte pas ChatGPT dans son cœur. Et vous savez ce qu'il vous dit, Saruman ? Un point en moins pour tout le monde. Et direction la Colombie. Oui, des mariachis, on s'en fout, on n'a pas eu le temps de trouver mieux. Direction donc la Colombie, prochaine destination vacances pour Manon, depuis que Marie-Monique Robin, sa new BFF, lui en a vanté les délices et ramené même une spécialité locale dont elle est friande. Pas de temps à perdre, je suis pas venu ici pour poser du lino, comme elle aime à dire.
C'est quand même pas isolé que ce son.
Si, bah visiblement c'est ce qu'ils ont fait en régie. À peine arrivé à Bogota, direction le club El Ghetto. 6 salles, 6 ambiances, mais surtout 6 bars. Au petit matin, Manon, qui a la démarche mal assurée d'un flamant rose qui aurait pris un coup de pelle, se fait embarquer par la maréchaussée et file directement en comparution immédiate devant le juge Juan Manuel Padilla. Détendez-vous Manon, ça va pas durer longtemps, parce que ce bon vieux Juan va demander à ChatGPT de juger à sa place. A fait passer son examen du barreau par ChatGPT, ouais. Où est lui-même un narcotrafiquant.
Ah, c'est
B, évidemment.
Mais vous rejouez,
il est reparti.
D'après vous,
je dirais B aussi.
B, c'est qu'il a fait passer son examen du barreau par ChatGPT. C'était la réponse A, les amis. On est en 2024, le monde va vite, il faut s'accrocher.
Il va repartir, Quentin.
Pas con, le juge, plutôt que s'emmerder à réfléchir à la loi, au bien et au mal, autant demander directement à une IA de trancher à sa place, la conscience tranquille. C'est en tout cas ce qu'a fait ce juge dans une demande d'exemption de frais de santé initiée par la mère d'un enfant autiste. Le mineur autiste est-il dispensé de payer des frais de modération pour ses thérapies, a demandé le juge à ChatGPT. Oui, c'est exact. Selon la loi en vigueur en Colombie, les mineurs ayant reçu un diagnostic d'autisme sont exemptés du paiement de frais de modération pour leur thérapie. En balados, espèce à dos. Audience terminée, affaire suivante, j'appelle le dossier Escobar. Victoire de Manon Mariani. Quentin,
merci à
c'est
tous.
Fade, hein.
Quentin,
vous fade, votre victoire.
Ça va, vous avez arrêté de jouer à une question.
Eh ben, c'est beaucoup.
La victoire est quand même là.
Sur 3.
Ce comportement est honteux, Quentin.
Ouais, oui.
Vous démarrerez le quiz demain avec 10 points de pénalité. Et on verra si vous faites le mal.
10 points.
Alors qu'il n'y aura que 4 questions.
Mais c'est le là, week-end demain, je vous rappelle.
C'est là qu'on verra si vous êtes fort. Mais justement, le data mining, ou comment tous nos données.
Quand même, voilà.
Oui, parfois on fait. Il faut dire à nos auditeurs.
Bien sûr,
on se retrouve le week-end pour faire des zoom tests comme ça. Mais évidemment, c'est très sympa.
Cette fake news.
Les amis, le data mining, ou comment nos données sont stockées et réutilisées. On est toujours avec l'ingénieur en intelligence artificielle, Victor Storchamp. Victor, on a vu comment l'administration pouvait utiliser ces data, mais en fait, en gros, ce sont surtout les entreprises qui s'en servent. Le but est surtout commercial.
Le but est multiple. Il est commercial. On a vu l'administration aussi, ou les chercheurs. Donc, le data mining, c'est vraiment un terme très générique pour désigner l'extraction d'informations à partir de données. Donc, bien évidemment, ça se décline dans beaucoup de situations. Et évidemment, il y a des exemples, par exemple, de supermarchés aux États-Unis qui arrivent à détecter qu'une de leurs jeunes clientes est enceinte avant même les parents de cette cliente, parce qu'ils ont regardé sur ses achats et en fait, ont pu mapper environ 25 produits qui constituent une trace que la personne est enceinte.
Mais est-ce que les gens ont conscience que ça existe, ce genre de pratique ? J'ai quand même l'impression que personne ne le sait réellement.
Alors, je pense que effectivement, ça mérite d'être plus vulgarisé et explicité.
Par exemple, les publicités, vous me dites si je dis n'importe quoi, si c'est pas le data mining, mais les publicités ciblées qu'on a, qui correspondent à nos goûts, tout ça, ça provient d'un data mining en amont ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, la partie data mining. Par exemple, par rapport à l'intelligence artificielle, c'est la partie de faire du clustering, donc du profilage, donc trouver des corrélations et des profils dans des données. Et ensuite, la partie prédictif, donc inférence, donc on utilise ces différents profils pour pouvoir prédire. C'est plus la partie IA de décision en temps réel. À partir de ce qu'on appelle des features, donc des profils qu'on a extraits grâce au data mining.
Si je comprends bien, le data mining, c'est en amont de tout ce qui se fait ensuite. C'est-à-dire, c'est la base, on va chercher l'information, on la recoupe, et c'est ensuite qu'il y a d'autres opérations qui sont menées, qui sont plus ciblées.
Ouais, exactement.
En 2012, le data mining a été utilisé par l'équipe de campagne de Barack Obama pour envoyer des messages ciblés. Le data mining, c'est très utile pour les politiques aujourd'hui aussi.
Oui, tout à fait. Alors, Obama, ce qu'ils ont fait en 2012... notamment avec David Shore, donc c'était de regarder au niveau des swing states et puis des indécis comment, bien en amont, on pouvait comprendre les thèmes sur lesquels cette population de voteurs indécis était alignée avec le candidat. Et du coup, on peut, au moment de l'élection dans le Money Time, pousser les thèmes sur lesquels on sait que le candidat est aligné avec les indécis.
Mais pardon, mais on a fait ça en 2012, Kamala Harris, elle ne l'a pas fait là ?
Bah, alors, elle a dû certainement aussi utiliser ce genre de technique. Et ensuite, on voit, c'est certainement cette question de l'impact et de l'évaluation, que c'est, même encore à l'heure actuelle, pas des techniques qui vous font complètement gagner l'élection. Parce que heureusement, il y a un principe de réalité aussi.
Et justement, on connaît la proximité entre les deux hommes. Est-ce que Musk, il a pu apporter des informations ? Est-ce que, de par sa puissance numérique, il a pu apporter un vrai plus à Donald Trump dans la dernière ligne droite ?
Oui, oui, forcément. Alors, même peut-être plus en tant juste que d'utilisation de X comme plateforme de diffusion, beaucoup plus que d'utilisation de l'IA comme outil pour créer du contenu qui serait ensuite diffusé.
Juste par sa position de patron de X.
Exactement.
Quentin ? La dernière fois que vous êtes venu à sur cette antenne, à ce micro, Victor Storchamp, vous nous avez dit, dans quelques mois, il y aura l'IA, il y a eu ChatGPT. À quoi on peut s'attendre, là, dans les prochains mois qui arrivent ?
Dans les prochains mois, je pense que ChatGPT, qui est une interface un peu générique, globale, va être décliné dans des agents qui vont non plus juste nous donner... du texte, mais aller faire des actions sur Internet, donc des agents web qui vont pour vous pouvoir vous booker un ticket pour partir en voyage. Et aussi
comme
comprendre...
un concierge numérique.
Exactement. Plein de concierges numériques qui vont augmenter votre productivité d'une façon absolument incroyable.
Ça n'existe pas déjà, pardon ?
Alors, c'est le début. Pour l'instant, mais l'innovation se fait, et ça, c'est, je pense, ce qui va arriver dans les 6 prochains mois de manière
On dira à un assistant, book-moi un voyage pour New York, par exemple.
Voilà, alors non seulement on dira, book-moi un voyage pour New York, et il comprendra qu'il faudra aussi vous réserver votre ESTA, vous faire votre passeport, vous renouveler.
Tout avec nos prix, voilà, etc.
Et puis, une fois qu'on est à New York, si on veut savoir, en fonction de nos intérêts, qu'est-ce qu'on veut visiter, qu'est-ce qu'on veut aller voir, pareil, il pourra faire un voyage sur mesure pour vous, complètement personnalisé.
Vous écoutez France Inter et peu importe l'heure qu'il est, puisqu'on a déjà un pied dans le futur.
On devrait faire une compile de ces phrases.
Oui, des meilleures.
Elle était belle, du vendredi.
Elle vous a plu,
elle était improvisée.
Ah, ouais, merci Quentin, c'est merci, rare. C'est gentil. Vous pourrez participer finalement au quiz la prochaine fois. La personne à suivre, Manon Mariani.
Je vous présente Rob Chavel. Il a une quarantaine d'années, il est américain et il a fondé une entreprise appelée Delate Me que l'on peut qualifier de solution d'anti-data mining. Car comme son nom l'indique, Delate Me supprime les traces numériques laissées par ses clients sur Internet. Rob Chavel est considéré aujourd'hui comme l'un des principaux défenseurs de la protection de la vie privée des consommateurs et des entreprises aux États-Unis. Il se définit lui-même comme un expert de la vie privée. L'idée de Delate Me lui est venue en 2010. Il vient de créer un outil numérique appelé Blur qui permet de faire des achats de manière anonyme sur Internet en utilisant des alias. Mais Chavel et ses cofondateurs constatent qu'un grand nombre de leurs clients souhaitent supprimer les informations personnelles déjà en ligne, ce que Blur ne pouvait pas faire. Delate Me a donc été créé pour répondre à cette demande. La phrase d'accroche du site est assez claire. Vos données personnelles vous appartiennent de nouveau. Il est accessible aux particuliers et aux entreprises. L'utilisateur s'inscrit sur le site et fournit les informations personnelles qu'il souhaite faire retirer, comme son nom, son adresse, son mail ou son numéro de téléphone. Delate Me recherche ensuite les informations de l'utilisateur sur des dizaines de sites d'agrégation de données, autrement dit, des sites qui collectent et qui vendent des informations personnelles provenant de sources comme les réseaux sociaux, les registres publics et les achats en ligne. Je pense que j'ai bon, Victor, ça va ? Des démarches qui peuvent être complexes, car ces plateformes rendent le processus de suppression volontairement difficile, évidemment pour dissuader les utilisateurs de le faire eux-mêmes. Rob Chavel se considère comme un défenseur passionné de la protection des données personnelles. Outre Delate Me, il a également milité pour des réformes législatives en matière de confidentialité aux États-Unis, notamment le California Privacy Rights Act, une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et qui a pour but de renforcer les droits des consommateurs californiens en matière de protection des données. Elle impose des obligations plus strictes aux entreprises qui collectent, partagent et vendent ces données. Un vaste sujet qui nous touche tous, mais dont on ne prête pas forcément attention. Le virtuel a encore quelque chose d'inaccessible. On ne se rend pas forcément compte des traces qu'on y laisse. Et pourtant, ça peut avoir des conséquences.
Merci. Manon, Victor Sorchand, ce genre de site-là, ça fonctionne vraiment ? On peut effacer nos traces numériques sur le net ?
Oui, alors on peut effacer nos traces numériques sur le net. On pourra, c'est en développement, mais aussi bientôt effacer nos traces numériques dans les modèles directement.
Ça veut dire quoi ?
Donc, pouvoir faire désapprendre au modèle. Le modèle ne pourra plus connaître telle ou telle personnalité directement dans le modèle. On a des systèmes d'édition, de modèle editing, donc d'édition de modèle pour pouvoir enlever certains contenus qui ont été appris. Ce qui est important, c'est que on a eu, depuis début 2023, une dynamique où les fournisseurs, les développeurs de modèles ont commencé à complètement fermer l'information sur les données qu'ils utilisaient pour entraîner. Et donc, par exemple, il y a Act, demande à ses fournisseurs de modèles maintenant de pouvoir fournir un résumé des données qui ont été utilisées. Bien sûr, le diable se cache dans les détails, on ne sait pas exactement... Que va être spécifiquement ce résumé, c'est en discussion.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Le père Chibrard, qui fut son mentor, Pierre Courade, durant sa jeunesse à Lourdes, l'avait compris avant tout le monde. Le data mining, c'est chaud, parce que des années après, on peut retrouver ce que t'as fait. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de Wi-Fi chez les frères maristes de Bétaram, et pas d'ordinateur non plus. Ces mémoires, le Christ, l'abbé Pierre et moi, le père Chibrard les a écrites à la main, à la bougie, parce que l'avantage du papier, c'est qu'au besoin, ça brûle. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Chaque après-midi, le résumé de tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Le data mining, c'est le procédé qui consiste à stocker toutes nos données dans un serveur et de les utiliser pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Ces données sont collectées à partir de nos recherches sur Internet, des sites que l'on visite, des photos que l'on poste, bref, l'essentiel de notre vie. Et c'est l'intelligence artificielle qui permet d'analyser et de faire le tri là-dedans. J'espère que mes parents ont écouté l'émission, ça m'évitera de leur expliquer pour la énième fois à Noël comment je fais pour avoir autant de choses dans mon portable et qu'ils regardent les nuages quand je leur dis que l'essentiel est stocké dans le cloud. Le ciel n'a rien à voir avec ça, aux grandes dames de l'abbé Chibrard. Les données sont gardées en mémoire sur Terre, dans des endroits bien physiques, physique, énorme même. Des entrepôts entiers de grosses armoires où moulinent toute la journée des serveurs qui enregistrent tout ce qui se passe sur Internet. La plupart sont situés aux États-Unis et en Europe. Même les recherches secrètes de Quentin sur des habits adultes taille 14 ans se retrouvent dans ses cartes mémoire. C'est dire le niveau d'intimité dont on se déleste volontairement et qu'on offre la connaissance d'entreprises, car ce sont elles qui utilisent en priorité ces données, comme nous l'a expliqué notre invité Victor Storchan, ingénieur en intelligence artificielle, et elles en profitent à ces entreprises pour faire du business avec ces données. Des marchés de data sont organisés de manière à la fois légale et régulée. Les politiques aussi s'emparent de ces données. Ce fut le cas de manière spectaculaire en 2012 par Barack Obama, qui a ciblé les attentes des électeurs des États clés. Enfin, les administrations aussi se servent aujourd'hui de ces data, notamment le fisc depuis 2013. Une avancée accompagnée d'un cadre législatif permettant d'éventuels recours, comme quoi on aura toujours besoin d'êtres humains, Cyril.
Je vous annonce un petit débord de 150% de votre temps d'antenne, mais à part ça, on a bien tenu les minutes chrono, quasiment. Merci beaucoup Pierre Courade, la bise à l'abbé Chibrard. Certains disent que le meilleur moyen de se protéger du data mining serait de lui vouer un culte et d'ériger une statue de sa personne dans chaque hameau et ville de France. Bonjour Harold Barbet.
Ça y est, on y est Mathieu. James Cameron avait raison, 2029 et Skynet, c'est demain. Bientôt on se rendra compte que toutes ces personnes qui se lèvent à 5h du mat pour aller à Basic Fit se faire transpirer le sillon interfessier n'étaient pas des humains, mais bien des cyborgs. Bienvenue dans l'ère des machines.
Oh
ouais. Bon, en vrai, au début, je n'ai absolument rien compris au data mining. Quand j'ai lu la doc que vous m'avez envoyée, j'ai fixé mon ordinateur pendant 10 minutes en exprimant un regard bovin, comme si j'étais le troisième enfant d'une portée consanguine d'une famille de l'Arkansas. Comment comprendre les subtilités des nouvelles technologies Big Data quand la lumière dans ma tête reste éteinte? Mais pas de panique, je vais vous expliquer en une phrase le data mining pour les teubés. En gros, c'est ce qui fait en sorte que tu reçois des publicités qui te correspondent. C'est la raison pour laquelle Claire, 34 ans, s'étonne de recevoir des pubs pour des lingettes. « Ah, mais ils nous écoutent ou quoi? Je tiens ma vie privée, moi !» Alors qu'une heure avant, elle a posté une photo du pot de toilette de son enfant avec comme légende « Grosse diarrhée pour la première de Maxence tout seul !» C'est très bien, le data mining. Moi, j'adore. C'est grâce au data mining qu'on a des idées de cadeaux pour le Secret Santa du boulot. Tu ressens ça, comment on fait pour trouver un cadeau à l'autre con du service informatique? Moi, l'année dernière, j'ai eu une lampe torche en forme de crevette. Une lampe torche en forme de crevette, putain, pourquoi pas un porte-savon en forme de salami? Le Secret Santa, c'est le cadeau de Noël du diable. Déjà que tu dois péter ton PEL pour acheter une dinde et des cadeaux aux gosses, voilà qu'en plus, maintenant, il faut que tu trouves un truc à quelqu'un pour qui tu n'as que du mépris. Cette année, Cyril a tiré Quentin au sort, il est dégoûté. Et bien là, le data mining peut t'aider en te suggérant une publicité adaptée grâce aux informations récoltées sur toi. Et c'est toujours savoureux de voir les gens crier au scandale quand sur leurs réseaux sociaux, ils ont étalé l'intégralité de leur vie depuis 15 ans, des résultats du bac jusqu'à la cicatrice de l'épisiotomie de Stéphanie, avec les commentaires qui vont bien. « Bah alors Steph, t'as déguisé ta schneck en l'étrange Noël de Monsieur Jack cette année ?» Hashtag lol, emoji qui rigole, emoji taco.
Oh non.
Moi, je me demande toujours si l'artificialité de l'intelligence est du côté des machines ou des utilisateurs. Les gens qui laissent 73 lignes de commentaires abscons sur Facebook, il y a quand même peu de chances que la publicité qu'on leur suggère soit un recueil biographique de tous les derniers prix Nobel d'économie. On est plus sur une casquette à hélice quadricolore. Le problème, c'est qu'on crée des paranoïaques en série. Maintenant, Patricia, ma voisine de palier, est persuadée qu'on l'espionne. À cause du data mining, Patricia a cessé de demander à son miroir, son beau miroir, qui était la plus belle. Maintenant, elle demande à ChatGPT « C'est qui m'espionne ?»
Oh. Vous êtes sur France Inter.
Oui, parce que Patricia pense que l'utilisation de ChatGPT implique une flatulence à la fin de chaque question. Voilà. Faudra lui expliquer. Pour Patricia, il y a des agents secrets cachés dans une fausse camionnette de fleuriste devant l'immeuble. La pizza hawaïenne a été créée après que Patricia ait agressé un livreur qu'elle prenait pour un espion avec un ananas. Genre, quelle prétention de croire qu'on est espionné. On espionne, mais Patricia, personne ne t'espionne. Moi-même, quand tu me racontes ta vie, j'ai le générique de la pub Carglass dans la tête tellement je ne t'écoute pas. Ta vie intéresse les gens à peu près autant que la section passe à linge d'un Carrefour Express. Est-ce que ça te rassure, Patricia, de penser qu'on pourrait t'espionner? Parce que quelque part, ça voudrait dire que quelqu'un s'intéresse à toi. Mais qui pourrait avoir envie de savoir que le samedi soir, tu manges des saucisses cocktail en te coupant les ongles de pied devant Koh-Lanta et qu'une fois sur deux, tu te trompes de récipient en te servant. Désolé de te décevoir, Patricia, mais non, ton aspirateur clitoridien ne t'a pas implanté une caméra cachée. Non, je n'irai pas vérifier. Et maintenant, s'il te plaît, rends-moi ma lampe torche en forme de crevette. Les données personnelles en ligne, c'est comme avouer qu'on chante du Maria Carré dans sa bagnole pendant les fêtes. C'est une information qu'on garde pour soi et qu'on ne partage pas. Allez, joyeux Noël.
C'est vrai que j'ai oublié que c'était bientôt Noël. Merci, Harold Barbet. On vous retrouve en 2025 dans Zoom Zoom Zen. Et bien sûr, on invite tous nos auditeurs à vous suivre sur vos réseaux sociaux et à venir voir votre spectacle les 10 et 11 janvier à Bourg-les-Valence. Le 17 janvier à Reims et le 24 janvier, où ça? Eh bien, à Cholet, évidemment. Toutes les dates sur www.haroldbarbet.com. Lui aussi, il a son site maintenant. C'est incroyable, ça.
Superstar.
Ah oui, mais c'est ça, mais ça vraiment.
Vous savez que ça se crée facilement, Mathieu. On peut faire le vote si vous voulez.
C'est vrai.
Oui,
pour vendre quoi?
Il peut voir avec son
ami
informaticien.
Je lui en parlerai. Merci encore, Victor Storchand, de nous avoir expliqué les subtilités du data mining. Je rappelle votre dernier livre, coécrit avec Vladimir Atlani, Anti-manuel d'intelligence artificielle, les nouvelles questions que pose l'IA, aux éditions Erol, pour aller plus loin sur notre sujet du jour. Zoom, zoom, zen.